Entretien sur la première épître aux Corinthiens par Henri Rossier, édition 1959, chapitre 7. Or, pour ce qui est des choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme, mais, à cause de la fornication, que chacun ait sa propre femme, et que chaque femme ait son mari à elle. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et pareillement aussi la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari. Et pareillement aussi le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un à l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez à la prière et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Or, je dis ceci par indulgence, non comme commandement, mais je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Toutefois, chacun a son propre don de grâce de la part de Dieu, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils ne savent pas garder la continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et quant à ceux qui sont mariés, je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne soit pas séparée du mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans être mariée, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari n'abandonne pas sa femme. Mais quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur, si quelque frère a une femme incrédule, et qu'elle veuille habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Et si une femme a un mari incrédule, et qu'il veuille habiter avec elle, qu'elle n'abandonne pas son mari. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme. Et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari, puisque autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Et si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur ne sont pas asservis en pareil cas, mais Dieu nous a appelés à marcher dans la paix. Car que sais-tu, femme, si tu ne sauveras pas ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu ne sauveras pas ta femme? Toutefois, que chacun marche comme le Seigneur le lui a départi, chacun comme Dieu l'a appelé. Et c'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il ne redevienne pas incirconcis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant dans l'incirconcision, qu'il ne soit pas circoncis? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il était quand il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en mets pas en peine. Toutefois, si tu peux devenir libre, use-en plutôt, car l'esclave qui est appelé dans le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés à prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères, que chacun demeure auprès de Dieu, dans l'état dans lequel il a été appelé. Or, pour ce qui est de ceux qui sont vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que ceci est bon, à cause de la nécessité présente, qu'il est bon, dis-je, à l'homme d'être tel qu'il est. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à en être séparé. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Toutefois, si même tu te maries, tu n'as pas péché. Et si la Vierge se marie, elle n'a pas péché. Mais ceux qui font ainsi auront de l'affliction pour ce qui regarde la chair. Mais moi, je vous épargne. Or je dis ceci, frères, le temps est difficile. Au reste, c'est pour que ceux-mêmes qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas à leur gré, car la figure de ce monde passe. Mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur. Comment il plaira au Seigneur? Mais celui qui s'est marié a le cœur occupé des choses du monde. Comment il plaira à sa femme? Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur, pour être sainte et de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à son mari? Mais je dis ceci pour votre propre avantage, non pour vous enlacer dans des liens, mais en vue de ce qui est bien séant et pour que vous vaquiez au service du Seigneur sans distraction. Mais si quelqu'un estime qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa virginité, et qu'elle ait passé la fleur de son âge, et qu'il faut que cela soit ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche pas, qu'il se marie. Mais celui qui tient ferme dans son cœur, et qui n'est pas sous l'empire de la nécessité, mais qui est maître de sa propre volonté, et a décidé dans son cœur de garder sa propre virginité, fait bien. Ainsi est celui qui se marie, fait bien, et celui qui ne se marie pas, fait mieux. La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Mais elle est, à mon avis, plus heureuse si elle demeure ainsi. Or j'estime que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que, si les Corinthiens ignoraient certaines choses et avaient à les apprendre, ils en savaient fort bien une quantité d'autres, mais en négligeaient la portée dans leur conduite journalière ou dans leur vie d'assemblée. C'était, de fait, plus grave encore que de les ignorer complètement. Aussi l'apôtre leur répète avec une juste sévérité. « Ne savez-vous pas ? » Ils ne tenaient pas compte de leur état de mort dans la chair, à laquelle ils attribuaient de l'importance. Ils n'estimaient pas avoir été crucifiés au monde, car s'ils avaient des difficultés entre eux, ils recouraient à son jugement. Ils avaient affaire à un mal moral dans l'Église et s'enorgueillissaient au lieu de s'humilier pour que la discipline pût être exercée. En un mot, les premiers chapitres nous ont montré que ce qui manquait aux Corinthiens, c'était, chose capitale, de réaliser que la croix de Christ avait mis fin au vieil homme par le jugement. En voici qu'omettant cette question principale, ils avaient toutes sortes de détails de casuistique à soumettre à l'apôtre. Néanmoins, Dieu s'en sert pour les éclairer au sujet de l'ordre qui convient à la maison de Dieu. Ils demandaient s'il fallait, oui ou non, avoir des rapports conjugaux, si des chrétiens ayant des païens pour conjoints devaient vivre avec eux, et ce qu'ils devaient faire de leurs enfants, si, étant esclaves, on devait demeurer dans cette condition ou s'en affranchir, si l'on devait rester vierge ou non, si l'on pouvait manger des choses sacrifiées aux idoles ou s'en abstenir. Dieu répond à ces questions, intéressantes à leur place, car elles touchent la liberté chrétienne, mais qui, comme question de détail, s'était emparée de l'esprit des Corinthiens au détriment des vérités essentielles et d'ensemble. Un pareil état d'âme se rencontre fréquemment. En proportion de l'affaiblissement spirituel, on est volontiers occupé de questions qui ne mettent pas en rapport direct avec la personne de Christ. On donne une importance exagérée au baptême, à la manière extérieure dont la scène doit être administrée, à la nourriture, aux vêtements, etc., questions auxquelles Dieu répond à l'occasion, car il a réponse à tout, mais dont Satan aime à se servir pour détourner les âmes du Seigneur. Or, je suis frappé de la manière dont l'apôtre traite ces sujets dans le chapitre 7. Du verset 1 au verset 17, il ne parle pas comme apôtre inspiré, mais simplement comme apôtre, c'est-à-dire comme ayant reçu de la part de Dieu une autorité qui n'était pas l'inspiration, mais que, vu son origine, il avait le droit d'exercer, car il avait mission divine de régler une quantité de questions dans les assemblées, verset 17, comme nous le voyons aussi dans les épîtres à Timothée et à Tite. L'apôtre donne donc des ordonnances, en vertu de son autorité apostolique, qu'il met ici en contraste avec ce qu'il dit de la part du Seigneur, verset 10, c'est-à-dire avec l'inspiration. Dans la seconde partie de ce chapitre, versets 25 à 40, Paul parle aux Corinthiens comme un homme ayant une autorité spirituelle au milieu des saints. Il dit « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, et je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. » Vous direz peut-être « Dans ce cas-là, je ne suis pas tenu d'obéir. » Comment ? Nous ne serions pas tenus d'écouter un homme qui est manifestement dirigé par l'Esprit de Dieu. Si nous ne suivions pas ce qu'il nous dit, nous ne serions que des orgueilleux, nous estimant capables de décider une chose beaucoup mieux que l'apôtre, et nous oublierions ce que Dieu pense de l'orgueil. Quant à l'inspiration, nous serions bien embarrassés de la définir, et n'étant pas inspirés, nous n'arriverions probablement jamais à le faire, mais nous savons que, dans l'inspiration, Dieu révèle à des hommes choisis de lui ses pensées et nous les communique par leurs moyens, d'une manière aussi complète qu'ils les ont reçues, les gardant de tout mélange de la chair, car il veut que ces pensées, qui nous sont destinées, arrivent à nous dans toute leur perfection divine. Les quelques passages contenus dans ce chapitre illustrent ces trois choses, l'autorité apostolique, l'inspiration et le droit du chrétien spirituel à se faire écouter. Au verset 6, « Or je dis ceci par indulgence, non comme commandement. Ainsi c'était simplement par égard pour leur faiblesse qu'ils n'exprimaient pas un ordre, ayant, pour le faire, l'autorité de la part de Dieu. » Au verset 17, « C'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. » Nous trouvons ici cette autorité s'exerçant partout dans l'Église. Au verset 25, « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion, comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. » Il parle comme homme spirituel qui devait être écouté. Au verset 40, « Or j'estime que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. » Il estime que, comme tel, il doit être entendu. Quand il arrive à l'inspiration, il dit au verset 10, « Je leur enjoins, non pas moi, mais le Seigneur. Mais, quant aux autres, je dis, moi, non pas le Seigneur. » Verset 12, distinguant entre sa parole comme apôtre et sa parole inspirée. Cette dernière est la parole du Seigneur, sortie du reste de la propre bouche de Christ. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, versets 5 et 6, Marc 10, versets 6 à 9. Matthieu 19, versets 5 et 6. Il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc 10, versets 6 à 9. Mais au commencement de la création, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Quand il s'agit du mariage, le Seigneur mentionne ce qui a été déclaré par inspiration dès le commencement. Les deux seront une seule chair. Puis il le confirme par sa propre parole et l'établit ici par la parole inspirée de l'apôtre. Ce chapitre 7, qui traite des liens et des relations appartenant à notre vie ici-bas, pourrait être intitulé « La liberté chrétienne réglée par une entière dépendance du Seigneur et de sa parole ». L'apôtre admet que les circonstances diffèrent, qu'il est légitime d'en tenir compte et que chacun est libre d'en juger pour lui-même. Quand il s'agit du service du Seigneur, il voudrait toutefois que tous les hommes fussent comme lui. Verset 7. C'est ce qui lui faisait dire à Agrippa, « Plût à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous devinssiez de toute manière tel que je suis, hormis ces liens. » Acte 26, verset 29. Cependant, en ce qui concernait le mariage ou la vocation, il n'y avait aucun mal à ce qu'on agît autrement que l'apôtre, pourvu que ce fût dans le Seigneur, chacun ayant son propre don de grâce de la part de Dieu, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Versets 7 et 39. Le célibat offre de grands dangers, le mariage de grandes difficultés. Que chacun pèse cela devant le Seigneur et se décide. Il n'y a pas de mal dans cette décision. L'apôtre met au large le cœur des Corinthiens que cette pensée préoccupait. Seulement, la femme ne devait pas être séparée de son mari, ni le mari de sa femme. Il y avait cependant des relations moins simples, celles par exemple d'une femme chrétienne avec un mari païen, ou d'un mari chrétien avec une femme païenne, versets 12 à 17. Devait-il se séparer? Selon la loi juive, il aurait dû en être ainsi, comme on le voit au dernier chapitre d'Esdras. Il fallait que l'Israélite se séparât de la femme étrangère afin de pouvoir faire partie de la congrégation sainte qui était le peuple de l'Éternel. L'apôtre part de cette pensée pour montrer que, sous le régime de la grâce, les choses étaient exactement le contraire du régime légal. Un mari chrétien ne devait pas se séparer de sa femme païenne parce que la femme était sanctifiée par le mari et vice-versa. Il va sans dire qu'en parlant de l'union d'un chrétien avec une personne du monde, l'apôtre ne pense pas un instant qu'il ait pu contracter une union pareille depuis sa conversion, mais suppose que la conversion de l'un ou de l'autre a eu lieu depuis le mariage et qu'il ne donne aucune liberté de s'allier à des personnes mondaines. L'incrédule étant donc sanctifié par le conjoint chrétien, les enfants issus de cette union sont saints et ont droit, par leur position, de faire partie de la maison de Dieu. Il faut se rappeler que c'est de la maison qu'il est question dans tous ces chapitres, et non pas du corps de Christ. Les enfants sont placés dans une position de sainteté, de mise à part, condition extérieure qui a rapport à la terre. Il ne s'agit pas ici de leur salut éternel, mais ils sont considérés comme faisant partie de la maison de Dieu sur la terre, afin d'avoir part à toutes les bénédictions qui s'y trouvent. L'apôtre aborde ensuite une autre question. Comment les chrétiens doivent-ils se comporter à l'égard des diverses conditions qu'ils occupaient lors de leur conversion? D'abord, quand on est appelé dans la circoncision ou dans l'incirconcision, il ne s'agit ni de l'une ni de l'autre, mais de l'observation des commandements de Dieu. Versets 18 et 19. Ensuite, il passe à l'état d'esclavage. Cette sentence, qui semble ne pas nous toucher, est, au contraire, d'une haute importance pour nous. Nous sommes très souvent appelés, étant dans une condition dépendante. Nous voudrions secouer le joug, et ce désir devient le point de départ de beaucoup de misère dans notre vie chrétienne. S'agit-il d'esclavage? Il semblerait qu'un chrétien devrait immédiatement se délivrer de tels liens. L'apôtre ne donne point le conseil de se sauver de chez son maître, lui qui renvoyait à Philémon l'esclave fugitif Onésime. L'esclave avait à rester dans la vocation dans laquelle Dieu l'avait appelé. Si Dieu lui donnait les moyens de se libérer, il devait plutôt en user, versets 21 et 22. Mais que chacun donc demeure auprès de Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé, verset 24. Enfin, les Corinthiens avaient interrogé l'apôtre au sujet de ceux qui n'étaient jamais entrés dans les liens du mariage. Il leur donne les indications qu'un homme spirituel comme lui pouvait donner, car il estimait que lui aussi avait l'Esprit de Dieu. Verset 40. Il leur dit que celui ou celle qui sont vierges ne se marie pas. Sans ces liens, vous pouvez faire beaucoup de bonnes œuvres, car alors vous n'avez à plaire qu'au Seigneur, ce qui est beaucoup meilleur. Je vous donne ce conseil, mais vous êtes libre, absolument libre d'agir selon votre degré de foi, pourvu que vous ayez affaire au Seigneur. Et il ajoute, « Le temps est difficile. » Ce mot ne rend pas complètement la pensée du texte. Il signifie « le temps est raccourci ». Nous nous trouvons, depuis la croix, dans un temps où tout avance rapidement vers la fin. Tout passe, qu'est-ce qui subsistera? Ne vous embarrassez donc pas de ce qui pourrait entraver votre marche en avant. Et nous pouvons le dire encore bien plus que l'apôtre, car nous nous trouvons tout près de la venue du Seigneur. Voulons-nous nous charger de tant de fardeaux, de tant de liens qui jouent nécessairement un très grand rôle dans nos vies? Ils passeront avec la courte existence à laquelle ils s'attachent. Eh bien, soyons comme ceux qui ne sont pas mariés, ne nous laissons pas imposer, dans notre marche chrétienne, même les choses les plus légitimes. Si nous avions cette pensée devant les yeux, comme nous serions préservés d'intérêts terrestres. Et si nos cœurs sont remplis de Christ, nous aurons davantage affaire à Dieu. Nous serons attachés au Seigneur et à ses intérêts. Nous serons plus simples, plus heureux, plus tranquilles. Au lieu de subir toutes les agitations du monde qui nous entoure, nous pourrons le traverser dans un vrai repos moral. Soyons attentifs à ces exhortations d'un homme qui, sujet aux mêmes passions que nous, était par excellence l'homme spirituel, lors même qu'il ne nous donne pas ses conseils comme des commandements et ne les établit pas de par son autorité apostolique. Ayons l'oreille ouverte pour les entendre et des cœurs soumis aux pensées exprimées par celui qui pouvait dire « J'estime que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu ».